Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Charlotte Aubin-Calédian. Bonjour madame.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Julien.
Charlotte Aubin-Calédian, vous êtes la cofondatrice et la PDG d'une société qui s'appelle Greenwich Partners, qui est spécialiste des énergies renouvelables en Afrique, de leur financement. Et avant de fonder cette entreprise, vous étiez la directrice générale pour la France et la Suisse du département investissement de la grande banque américaine Morgan Stanley. Pourquoi et comment passe-t-on de la finance pure au sein d'un grand établissement financier aussi connu à la création d'une structure forcément plus modeste ? Comment ? Pourquoi ?
Ah, ça, c'est une question que j'adore aborder parce que c'est le fondement de Greenwich. J'ai eu un parcours très réussi et épanouissant dans la finance jusqu'en 2009 ou 2008 où on a eu cette crise vraiment dommageable pour l'ensemble de la communauté financière et de la communauté économique. Et en 2008, alors que j'avais des responsabilités importantes au sein de la filiale française de Morgan Stanley, qui était l'asset management pour être plus précis, j'ai pris conscience de la responsabilité économique globale de la banque d'affaires, puisque les banques d'affaires avaient énormément pris d'importance dans le financement de l'économie mondiale, la capitalisation mondiale. Et évidemment, cette crise financière a impliqué bien plus qu'une crise financière, puisqu'elle a mis des États en défaut, je pense aux États d'Europe du Sud. Et à ce moment-là, la décision que j'ai prise, c'était, en regardant les conséquences de cette crise, la banque d'affaires avait, selon moi, un modèle trop court-termiste, individualiste et trop matérialiste, qui n'était pas compatible avec mes valeurs. Et j'ai pris la décision de lancer mon propre business avec comme fondement le financement de l'économie réelle et un impact positif social et environnemental. Et à l'époque, il y avait le fameux économiste Lord Stern, qui a été une source d'inspiration pour moi, qui disait que pour le 21e siècle, on avait deux grands challenges. Un, annuler la pauvreté, lutter contre la pauvreté mondiale et le changement climatique. Et ces deux devaient être adressés ensemble et créeraient une opportunité économique globale pour redresser l'économie. Mmh. Et c'est sur cette base que j'ai monté Greenwich.
Et donc, ça a été une révision déchirante pour vous de quitter la banque d'affaires pour vous retrouver dans le monde réel ?
Alors, ça a été une révision plus que déchirante, parce que d'abord, je me suis confrontée à l'entrepreneuriat. Mon premier abonnement téléphonique a été compliqué à prendre à ce point.
Pourquoi ? Parce qu'avant, vous aviez des gens qui prenaient les abonnements pour vous ?
Exactement, parce que dans l'univers corporate, on était quand même bien cajolés et avec peu de responsabilités au-delà du focus de nos activités. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, eh bien, il y a tout à mettre en place.
Donc c'est le contact avec la réalité, vraiment. Donc là, on découvre à travers ce que vous nous dites que quand on est dans une banque d'affaires, quand on a des responsabilités, on est coupé de la réalité du monde.
Quand on est dans une banque d'affaires ou dans n'importe quel univers corporate, on est uniquement centralisé sur une responsabilité, une activité, un domaine de compétences précis, sans avoir à prendre en charge, évidemment, l'ensemble de l'opération. Ce qui n'est pas la réalité, qui est la segmentation des tâches. Et l'entrepreneuriat, par définition, va à l'encontre de ça, puisqu'il faut prendre tout en main, tout initier.
Alors, au cours de cette émission, Charlotte Aubin-Calédian, nous allons bien sûr parler de vos activités en Afrique, de la réalité de ce continent. Nous allons beaucoup parler des énergies renouvelables, de ce que vous percevez de la croissance économique de ce secteur et de l'essor du continent africain. Une première question de Julien Clémenceau pour Jeune Afrique.
En 2010, vous avez créé Greenwich Partners. Qu'est-ce que c'est exactement que cette compagnie ? Que fait-elle ?
En 2010, elle était d'abord centralisée sur des activités de conseil stratégique, bien évidemment sur le secteur des énergies renouvelables et en particulier sur les infrastructures renouvelables. Et en 2014, elle est devenue une plateforme d'investissement dédiée à l'Afrique.
Qu'est-ce qui fait ce changement en 2014 ?
En fait, c'est plutôt pourquoi une transition et pourquoi avoir attendu 2014 pour recréer une plateforme d'investissement. Parce que moi, je venais du domaine de l'investissement, mais en lançant Greenwich dans un secteur, dans une classe d'actifs très spécifique sur lequel j'avais pas une expérience fort développée au moment de mes activités chez Morgan Stanley, j'ai commencé par me concentrer sur ce que je savais faire, qui était de la structuration financière, du financement, dette, fonds propres, des transactions financières dans ce secteur.
C'était aussi moins gourmand en investissement et vous pouviez le financer avec vos belles années de Morgan Stanley ?
Alors, c'est une activité de service qui a un profil un peu plus risqué parce qu'il faut finaliser des transactions pour pouvoir gagner sa vie, mais qui en effet est moins capitalistique puisque les infrastructures, l'investissement en infrastructures requiert des fonds propres et de la dette très très significative.
Je reviens sur la question que Julien vous posait à l'instant. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui ? Quelle est votre activité ?
Aujourd'hui, le métier de Greenwich est le développement, la structuration et l'investissement de projets d'énergie renouvelable en Afrique. Et ça se décline sur trois secteurs, trois segments. Un premier qui sont les fermes solaires, éoliennes et maintenant le stockage à destination des opérateurs publics. C'est ce qu'on appelle l'IPP, des producteurs indépendants d'énergie, avec des contrats long terme, en général 20 ans, avec les sociétés d'électricité et une garantie en général des États. Le deuxième segment d'activité de Greenwich est ce qu'on appelle les projets décentralisés à destination du secteur privé, avec un segment phare qui est le secteur télécom. Nous sommes une des 3-4 sociétés qui se lancent sur ce segment nouveau, qui est la conversion et l'investissement, puis de la gestion d'actifs d'énergie pour le compte des opérateurs télécoms. Et le dernier segment que nous lançons, j'espère, d'ici la fin de l'année, c'est une solution aussi B2B pour les professionnels, mais à destination des communautés qui sont aussi des solutions décentralisées alliant l'accès à l'énergie, l'accès au digital et la connectivité pour accélérer le développement social et économique en milieu rural.
Une fois que vous avez bâti vos centrales, vous les opérez ?
Alors, disons que nous les gérons, puisque l'opération est en général déléguée, confiée à des sociétés de construction. Je donne l'exemple de notre centrale solaire au Sénégal. À l'issue d'un appel d'offres, nous avons sélectionné Vinci pour la construction et la gestion opérationnelle de la centrale. Pour autant, cette gestion opérationnelle, une fois le portefeuille étoffé, sera de plus en plus internalisé.
Alors, vous êtes française. D'où vous vient votre intérêt pour l'Afrique ?
Alors ça, c'est un grand mystère parce que j'ai pas un historique africain. J'ai grandi à Amiens, comme notre cher président. Et je me suis intéressée à l'Afrique, finalement, une première fois en 2009. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé après Morgan Stanley était un projet en Afrique, à Madagascar, avec beaucoup de un angle carbone très important, mais qui était plutôt sur la reforestation et des plantations agricoles. Et de 2010 à 2013, on a travaillé essentiellement sur des projets en Europe et en Amérique du Nord. Mais en 2013, la saturation du marché européen des énergies renouvelables commençait déjà à s'annoncer, avec des rentabilités beaucoup plus faibles, et puis d'un point de vue génération, une surcapacité. Et mon point de vue en 2013 a été que le développement du secteur énergie sur l'Europe devait plutôt être centralisé sur l'efficience énergétique que l'augmentation des capacités. Et à cette époque, j'ai été sollicitée par des développeurs de projets en Afrique de l'Ouest, à la fois français et africains. D'ailleurs, un de mes partenaires aujourd'hui, malien, je l'ai connu à cette époque. Et j'ai mis du temps à accepter de travailler avec eux pour les aider à financer ces projets. Pour autant, au bout de 6 mois... Alors, exactement. Et là, on entre dans les spécificités de l'Afrique. C'est que les projets sont longs à développer.
Si longs que vous n'avez qu'une centrale solaire en activité aujourd'hui.
Exactement.
Alors que vous y êtes depuis plusieurs années.
Nous y sommes depuis 2014. Alors, on n'a pas qu'une centrale solaire. On a aussi un premier portefeuille sur nos activités secteur privé pour le compte de Orange en RDC, où nous convertissons et opérons un portefeuille d'énergie pour 250 tours de télécom.
Où en est l'électrification du continent en énergie renouvelable aujourd'hui?
Je dirais qu'elle en est encore à ses balbutiements. On a beaucoup d'espoir et mis aujourd'hui sur les énergies renouvelables. Alors, j'entends par énergie renouvelable le solaire, l'éolien et le stockage, mais il y a aussi deux grosses sources d'énergie qui, elles, sont déjà plus avancées, qui sont l'hydro, source d'énergie historique et qui est de loin la plus compétitive. Certes, avec moins d'impact environnemental, pour autant des grandes complexités dans ses réalisations et d'impact social aussi.
Alors, selon l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait investir 19 milliards de dollars par an pour réussir à combler le déficit électrique du continent africain. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que les investissements sont à la hauteur? Toutes énergies confondues, je veux dire.
Alors, l'Afrique aujourd'hui fait l'objet d'un paradoxe incroyable. Il y a pléthore de capitaux disponibles pour financer ces projets, à la fois en dette, hein, je pense à toutes les banques de développement, mais aussi en fonds propres. Chez Greenwich, on est régulièrement sollicité et il n'a pas été très difficile de convaincre des investisseurs de se concentrer sur le continent africain. Pour autant, très peu de projets arrivent à finalisation. Et on est très loin de la nécessité d'investissement, non pas
pourquoi,
par manque de capitaux.
Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à maturité, tout ça?
La grande complexité du continent est que il faut réunir trois types de participants. Le premier, c'est évidemment les acteurs du secteur privé qui initient, développent les projets, ce que nous faisons. Pour réussir, il faut avoir des compétences techniques, avoir une connaissance locale, une confiance du politique, une compétence opérationnelle, une compétence légale, une compétence financière. Tout ça est très complexe et requiert souvent des partenariats pour avoir l'ensemble des éléments de l'architecture d'un projet. Les deuxièmes participants sont évidemment les États, qui ont tous la volonté de voir leur mix énergétique se diversifier, grandir, avec évidemment des nuances et des contre-pouvoirs, notamment dans les pays pétroliers. Hein, on l'a bien vu au Nigeria, où il y a des grands programmes solaires. Il y a des forces noires qui s'opposent à certaines velléités du gouvernement et chef d'État.
Ça veut dire quoi, des forces noires?
Ça veut dire que évidemment il y a des intérêts divergents au sein du pays, où les énergies renouvelables vont évidemment impliquer, créer une source d'énergie concurrente des énergies fossiles.
Vous voulez dire que il y a un lobby pétrolier au Nigeria qui s'oppose au développement des énergies renouvelables?
Il y a un lobby pétrolier qui est mondial, mais Dieu merci, les acteurs du secteur pétrolier aujourd'hui s'intéressent et s'investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables, ce que j'encourage parce que je pense qu'ils ont un rôle important pour soutenir le développement du secteur.
Vous avez des contacts, par exemple, avec Total, qui a une division énergie renouvelable?
Oui, on a initié, regardé des projets ensemble avec Total, mais aussi avec d'autres acteurs du secteur pétrolier. Et très clairement, c'est des acteurs que je vois et j'encourage à se développer sur le secteur. Je reviens juste sur le point des blocages, parce qu'on n'avait pas fini. Il y a, donc au sein des gouvernements, une des problématiques que l'on voit, c'est évidemment, la plupart de ces gouvernements manquent de budget, manquent de fonctionnaires et manquent de compétences, à la fois sur le plan légal, technique, pour négocier avec le secteur privé pour la réalisation de ces projets. Alors, le troisième acteur qui est vraiment clé sont les banques de développement, qui aujourd'hui sont incontournables sur le financement de ces énergies propres. Pourquoi ? Parce qu'elles ont, elles sont les seules à avoir des bilans très longs, capables de, d'amener des financements à 17-18 ans.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire un bilan très long ?
Ça veut dire que quand vous réalisez un projet d'énergie solaire, d'éolien ou même d'hydro, encore plus long, il faut réaliser des montants enfin il y a des montants d'investissement initiaux qui sont très très importants.
De l'ordre ?
De l'ordre, on va raisonner en mégawatts entre 1 et 1,5 million d'euros du mégawatt, je pense au solaire, un petit peu plus pour l'éolien et plutôt 2-3 millions d'euros par mégawatt sur l'hydro, mais avec des durées d'opération beaucoup plus longues. Ensuite, le vent, le soleil sont gratuits. Donc il y a peu de coûts d'opération, contrairement aux énergies fossiles où en fait la part variable qui est l'achat du fioul, du gaz, va être importante dans la gestion annuelle de ces actifs. Donc sur le point du rôle des banques de développement, pour financer un projet d'énergie renouvelable, il faut avoir accès à de la dette long terme, donc des prêts sur des maturités de 15 ans, 18 ans, qui est pris en charge par des banques commerciales en Europe ou aux États-Unis, mais très peu en Afrique. Seule l'Afrique du Sud et le Maroc ont des accès à des financements de banques commerciales. Le reste de l'Afrique subsaharienne dépend du financement des banques de développement.
Et justement, ces banques de développement, est-ce qu'elles jouent leur rôle ? Est-ce qu'elles sont au rendez-vous ?
Alors, ces banques de développement ont des capitaux importants destinés au financement des énergies renouvelables, ont aussi un vrai focus sur les énergies renouvelables, très clairement. Pour autant, elles ont des lourdeurs administratives dans la prise de décision qui sont souvent cause de retard significatif sur, sur la finalisation des projets.
Est-ce que vous parlez des institutions internationales en général ou précisément des institutions africaines ?
Comme la Banque africaine de développement.
Alors, non, c'est toutes les banques de développement. Il y a la Banque africaine de développement et ses contreparties comme l'AFD, la Proparco, la BEI, FMO pour les Hollandais, toutes ces institutions qui sont toutes impliquées sur le continent africain.
Vous pensez que, que l'Agence française de développement, par exemple, souffre de grosses pesanteurs dans son action? Parce qu'elle est très dynamique depuis l'arrivée aux affaires de Rémy Rioux, son nouveau directeur général. Et elle communique beaucoup sur ses activités. Vous pensez qu'ils sont en arrière de la main dans la réalité?
Alors, l'AFD travaille pour le compte des États. Ça veut dire que l'AFD ne finance pas des projets initiés par des opérateurs privés. L'AFD a fait un travail remarquable pour accélérer le financement de ces projets. Pour autant, j'ai mis une réserve dont j'ai parlé avec Rémy Rioux, qui, je trouve, fait un travail exceptionnel, qui est le financement concessionnel et subventionné des États pour leur capacité de génération électrique amène un biais alors et pas spécifiquement l'AFD hein la SFI joue également ce rôle là qui est amener des financements concessionnels pour le compte des États permet de créer des capacités de génération électrique à coût évidemment moindre, ce qui est parfait pour les États. Pour autant, ça crée des endettements significatifs pour les États. Et selon moi, en amenant des toutes petites capacités à l'échelle des besoins, finalement crée une distorsion dans le marché qui freine le potentiel du développement qui, selon moi, devrait être porté par le secteur privé.
Eh bien, on continuera à parler de tout ça, Charlotte Aubin-Calédian, avec vous, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique, dans la deuxième partie de cette émission, parce que nous avons terminé la première partie. Et nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue dans la deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, nous recevons une grande invitée en la personne de Charlotte Aubin-Caledjian, cofondatrice et PDG de la société Greenwich Partners, qui a pour vocation de développer les énergies renouvelables en Afrique, le solaire, l'éolien, le stockage, vous nous avez dit au cours de la première partie. Nous avons vu que vous aviez un parcours un peu atypique, que vous aviez longtemps travaillé dans ce qu'on appelle la finance internationale et que la crise de 2008 vous avait convaincu de changer d'activité. Nous avons aussi vu que l'électrification du continent africain, en tout cas l'électrification renouvelable, butait selon vous sur deux obstacles. D'abord la sous-administration des États africains et deuxièmement peut-être peut-on parler de suradministration des banques de développement, de leur pesanteur. Vous avez cependant dit un peu de bien de l'Agence française de développement. Alors dans quelques jours a lieu à New Delhi le sommet fondateur d'un nouveau grand machin, l'Alliance solaire internationale. L'idée en avait été lancée lors de la COP21 à Paris. L'Inde et la France veulent que d'ici à 2030, 1000 milliards de dollars aient été investis dans le solaire photovoltaïque. Est-ce que c'est une initiative importante? Est-ce que vous serez à New Delhi, Charlotte Aubin-Caledjian?
Alors, j'ai des petites contraintes logistiques, mais je suis fortement invitée par la délégation française à me joindre à cette initiative auquel Greenwich participe et que je salue, et en particulier...
Mais est-ce que c'est une initiative importante? 1000 milliards de dollars d'ici 2030, ça semble une somme faramineuse. Quand vous nous dites qu'il y a des pesanteurs administratives, qu'on n'arrive pas à réunir les 19 milliards de dollars par an qui seraient nécessaires pour l'électrification du continent, comment croire que 1000 milliards de dollars, c'est pas une simple vue de l'esprit?
Alors, il faut des grandes ambitions pour réaliser des grands projets, mais aussi initier des grands changements. Si vous vous souvenez, il y a une décennie, la notion du changement climatique était quelque chose qui était absolument pas dans la conscience des esprits. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut plus être renié et que chaque individu prend en compte dans sa vie quotidienne, mais aussi les grandes sociétés dans leur stratégie. Non pas pour des raisons de responsabilité sociale et environnementale, mais tout simplement parce qu'il y a un réel risque économique mondial lié au changement climatique. Et selon moi, il faut des grandes ambitions, des grandes initiatives. Alors justement, dans l'Alliance solaire, il y a plus d'une vingtaine de chefs d'État qui participeront à cette initiative, et en particulier nombreux du continent africain, qui est un continent qui est encore au balbutiement de son électrification et qui n'a pas le choix que de le faire par les énergies renouvelables. Maintenant, j'amènerai un point supplémentaire important. Que l'Alliance solaire peut porter, qui est ce nouveau mode de consommation et de génération de l'électricité, qui est la génération décentralisée. Ma grande conviction pour le continent africain, et l'Alliance solaire englobe ces initiatives, c'est que si on veut accélérer cette électrification, elle va pas se faire que par les réseaux. Pourquoi ? Les réseaux sont faibles, les États n'ont pas les moyens de financer ces réseaux.
C'est-à-dire les lignes de
transmission. Les lignes de transmission. Oh. On a évoqué tout à l'heure ces grands projets d'énergie raccordée au réseau. Ils sont limités par les blocages que l'on a pu voir. Évidemment, ils vont se développer. Ils seront accompagnés de solutions de stockage que nous développons déjà sur le continent et annonceront une grande réalisation très prochainement. Pour autant, si on veut accélérer, en Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler.
Il y a une innovation technologique dans ce modèle de stockage?
En fait, cette innovation technologique, c'est le stockage, tout simplement, puisqu'il y a aujourd'hui très peu d'unités de stockage qui existent. Il y en a un petit peu en Angleterre, en Australie, il y a quelques projets. Mais finalement, cette technologie est encore à ses balbutiements. Elle en est, je dirais,
Ce sont des batteries?
Des batteries, des solutions de stockage par le batterie. Et on en est... je dirais, sur le secteur des batteries, là où en était le secteur solaire il y a 10 ans. Et selon moi, il y a un grand potentiel aujourd'hui de développement des solutions de stockage qui est déjà beaucoup plus avancé sur les petites unités. Par exemple, ce que l'on fait sur les solutions décentralisées, ce que je voulais évoquer auparavant, c'est aujourd'hui, si vous regardez le continent africain, vous avez 2/3 de la génération qui est faite par les énergies fossiles et en particulier par des énergies d'appoint partout où le réseau n'est pas disponible. Ça veut dire du diesel, du HFO, des solutions diesel qui sont chères, polluantes, peu fiables et compliquées en opération parce que transporter des camions de fuel parmi ces grands pays est assez complexe et présente beaucoup de risques. Quand on vient avec des technologies qui sont aujourd'hui compétitives et fiables, comme le solaire, les batteries, mais aussi des outils de monitoring grâce à la technologie digitale, hein, je pense à toutes les technologies d'efficience énergétique, aujourd'hui on peut transformer ces énergies d'appoint dépendant du diesel avec des solutions hybrides dans lesquelles on amène des technologies qui améliorent la fiabilité de l'énergie, qui réduisent le coût de l'énergie, qui bien évidemment améliorent l'impact environnemental, mais aussi améliorent la rentabilité financière des clients. Et je salue le groupe Orange sur cette initiative, qui est leader et pionnier de la transformation de son parc d'énergie vers des solutions d'énergie propre.
Donc ça, c'est une nouvelle activité que vous avez développée, c'est-à-dire qu'auparavant, vous étiez plus sur des centrales solaires hors réseau, c'est ça, mais dédiées aux populations.
Non, réseau.
C'était réseau.
On a commencé Synergie. Sur les réseaux.
D'accord. Et là, vous êtes sur, en fait, comment faire en sorte que les pylônes télécom coûtent moins cher à Orange, consomment moins de diesel, et donc vous avez une solution mixte solaire-diesel.
Et batterie.
Pourquoi vous travaillez avec pourquoi cette diversification? C'est plus facile de travailler avec des privés, ça va plus vite, et pour une entreprise qui doit faire rentrer du cash, ça permet de développer d'un côté des centrales solaires où on est sur un temps long, et de l'autre un business plus immédiat.
Mais je vais vous embaucher, Julien. c'est exactement la vision que j'ai pour Greenwich, mais aussi pour le continent. C'est que si on veut accélérer l'électrification, il faut travailler sur différents types de projets qui ont des maturités différentes. Et très clairement, le 2/3, ce que j'évoquais, hein, 2/3 pour moi des solutions, et ça c'est grâce à l'innovation technologique. La maturité aujourd'hui des technologies environnementales, solaire, batterie, mais aussi du digital, tous ces outils d'efficience énergétique qui sont aujourd'hui très développés aux États-Unis permettent une nouvelle façon et encore une fois un saut technologique dont l'Afrique est le leader pour créer des nouveaux modes de consommation de l'énergie.
Alors, selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, le coût moyen des énergies renouvelables est en train de baisser. Et il serait maintenant inférieur, vous allez pouvoir nous le confirmer, ou pas, au prix des énergies, au prix du kilowatt produit via des énergies fossiles.
Alors,
c'est le cas ou c'est une vue
c'est
d'esprit
le cas, non, c'est le cas avec quand même quelques réserves qui sont les spécificités des endroits où on produit. Typiquement, le Moyen-Orient aujourd'hui est leader dans ces fermes solaires gigantesques, avec comme particularité du foncier disponible à coût moindre, des capacités de génération colossales qui évidemment amortissent les coûts. Hein, développer le prix au mégawatt d'une ferme solaire de 20 mégawatts au Sénégal n'est pas la même que...
Soyez concrète, 20 mégawatts, ça permet d'alimenter une ville de combien d'habitants?
Alors, 20 mégawatts, ça a représenté, au moment où on a réalisé notre premier projet au Sénégal, 26 millions d'euros d'investissement et de l'électricité pour à peu près 180 000 personnes. Alors, pour finir sur ce point, sur la compétitivité du renouvelable, évidemment, plus l'ensoleillement va être important, plus la production sera importante. Typiquement, au Sénégal, on produit deux fois plus pour la même capacité que si notre ferme solaire était en Espagne ou en France. Et ensuite, il y a le paramètre fondamental qui est le coût du capital. On l'a évoqué plus tôt. En moyenne, 70 à 80% de la source de financement de ces projets sont des financements en dette. Et évidemment, le coût du financement est un paramètre très important et il n'est pas du tout le même au Sénégal, au Nigeria qu'il est au Moyen-Orient.
Quand vous dites du financement en dette, ça veut dire que c'est l'État qui s'endette pour financer?
Non, c'est nous. C'est nous, développeurs, sponsors.
Donc c'est de l'emprunt.
Privés. C'est de l'emprunt. Mais c'est de l'emprunt au niveau des projets.
Alors, cette baisse du prix du kilowattheure renouvelable, est-ce qu'il est transféré au consommateur? Est-ce que ça coûte moins cher d'avoir de l'électricité une fois que Madame Charlotte Obin-Kaledjian a posé ses panneaux solaires sur un territoire africain?
Alors, il l'est déjà pour Orange, puisque sur le portefeuille que l'on on convertit pour Orange, ça représente une baisse de 30% du coût total d'opération de l'énergie. Au niveau des projets étatiques, la baisse du prix de distribution dépend plutôt de la situation financière de la société d'électricité. Il y a très clairement des ambitions pour les États africains de baisser le coût de l'électricité, mais la réalité irait plutôt dans le sens d'une augmentation du prix de l'électricité. Pourquoi ? Parce que l'électricité étant tellement chère dans la plupart de ces pays, souvent dépendant d'importations d'énergie fossile, même le Nigeria, grand producteur, importe son
oui.
énergie raffinée.
Oui, parce que ces raffineries ne fonctionnent pas.
Exactement. Mais... Donc, ce qui implique que l'électricité doit être subventionnée, et même subventionnée, elle reste très chère pour les consommateurs. Mais aujourd'hui, les sociétés d'électricité sont dans un goulot d'étranglement, puisqu'elles dépendent souvent du budget de l'État pour subventionner l'électricité. Elles sont structurellement déficitaires, ce qui rend... La finalisation de projets avec des contreparties étatiques encore plus compliquées. Et donc, la capacité à réduire le coût de l'électricité pour les consommateurs est encore un petit peu éloignée pour beaucoup de pays, sauf quand ils sont arrivés à un mix énergétique très compétitif. Le Sénégal a fait beaucoup de progrès dans ce sens. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a un mix énergétique compétitif. Et
c'est,
pour
c'est
autant...
C'est-à-dire les énergies renouvelables, c'est l'hydraulique, c'est ça le mix entre les énergies fossiles, le charbon, le fuel.
Je vous donne un exemple flagrant. Au moment où nous avons raccordé notre centrale solaire en octobre 2016 au Sénégal, le coût moyen de l'électricité... Ouais. du mix énergétique qui était très dépendant des importations d'énergie fossile était 40% plus cher que le prix du kilowatt de la centrale solaire que l'on a proposée au Sénégal. Et évidemment, tout ça dépend beaucoup du coût des énergies fossiles et de ce mix énergétique. La Côte d'Ivoire, qui a un mix énergétique avec du gaz, avec de l'hydro, qui sont beaucoup moins chers que des énergies diesel, par exemple, a aujourd'hui un mix énergétique assez compétitif.
Alors, la question du financement que vous abordiez tout à l'heure, elle était au cœur du One Planet Summit qui s'est tenu pas loin d'ici, pas loin des studios de RFI au mois de décembre dernier. À cette occasion, ma consoeur Anne-Cécile Brave est invitée au micro de son émission « C'est pas du vent ». Emilio Larover, un professeur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro au Brésil, qui est aussi membre de la commission Stern-Stiglitz, de grands économistes, sur le prix du carbone. À ses yeux, aux yeux d'Emilio Larover, la question financière est fondamentale dans le décollage des énergies vertes. On l'écoute.
Pour passer à l'action, il faut qu'on puisse vraiment résoudre les problèmes de la finance. Parce que ça fait 25 ans, cette année, qu'on a signé la Convention climat, on discute, mais il faut avancer plus vite sur la technologie et la finance. La technologie, dernièrement, là, on a eu des bonnes nouvelles. Le prix du solaire, le prix des rivières de l'éolienne. Donc ça marche. Mais toute cette technologie demande un investissement plus fort au début. Puis elles vont être économiques. Mais toujours est-il qu'il reste à financer les prix initiaux. Et là, aux pays en développement, c'est difficile. Pour l'efficacité énergétique, pareil. Le problème, c'est que pour aller plus vite, il faut prendre conscience d'abord que c'est pas comme à l'époque du prix du pétrole plus élevé, la crise du pétrole dans les années 70, qui était vue comme une conjoncture. Là, non. C'est pour du vrai. C'est définitif. Il faut, pour des raisons de l'environnement, du climat, passer à une transition à long terme. Donc, c'est sur ça qu'il faut axer. Et là, il faut des mécanismes financiers plus importants pour justement supérer les obstacles, les risques, toujours perçus par les investisseurs privés, les fonds de pension, les fonds souverains, qui doivent faire aussi une migration des actifs sur les énergies fossiles vers les actifs des énergies renouvelables.
C'était donc Emilio Larovere, un universitaire brésilien, membre de la commission Stern-Stiglitz. Cet éco-dici éco d'ailleurs, le grand invité de l'économie, la grande invitée de l'économie est Charlotte Aubin-Calédian, cofondatrice et présidente de la société Greenwich Partners, que nous interrogeons avec Julien Clémenceau. Je vous voyais sourire en écoutant Emilio Larovere. Pour vous, c'est pain béni, ce genre de déclaration?
Exactement. J'avais tenu ces mêmes propos au début de l'émission. L'enjeu financier est très clairement le nerf de la guerre aujourd'hui, avec des technologies qui sont arrivées à maturité.
Expliquez-nous, Charlotte Aubin-Calédian, comment on monte un projet de centrale solaire sur le plan financier, les démarches. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez découvert comment on prenait un abonnement téléphonique. Eh bien, faites-nous découvrir comment quel est le montage financier pour une centrale solaire.
Ah oui, je me suis aussi improvisée comme développeur d'énergie solaire en Afrique, mais c'est très enthousiasmant. Alors, d'abord, ma philosophie, la philosophie de Greenwich et ma façon de travailler, c'est d'abord d'investir un pays. Et quand je parle d'investir un pays, ça veut dire de faire connaissance avec les différents acteurs d'un pays. Ça veut dire comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les relations entre le secteur public, le secteur privé, quelles sont les priorités du gouvernement, quel est le mix énergétique, comment fonctionne le pays économiquement, politiquement. En général, je prends un an à deux ans pour faire connaissance avec un pays. Et ça prend du temps.
C'est-à-dire vous rencontrez les acteurs économiques, politiques, syndicaux, tous. La société civile, tous.
Tous. C'est l'investissement que je fais et que je trouve passionnant. Évidemment, je le fais parce que j'aime ces pays et j'aime les gens que j'y rencontre. Et c'est une fois, selon moi, il n'y a que quand on a une réelle confiance du gouvernement, que Dieu merci nous avons réussi à construire dans plusieurs pays, mais aussi des vrais partenaires locaux, que ce soit en investissement, que ce soit en opération, que ce soit en développement, que selon moi on peut réussir un projet. Et donc j'ai une vision très inclusive de nos activités qui est beaucoup. Alors déjà dans nos équipes, on a beaucoup d'Africains et de gens des pays où l'on opère, et les équipes sont aussi beaucoup sur le terrain, mais on a dans chacun de nos projets des partenaires locaux.
Après, il y a l'étape financière.
Après, il y a l'étape financière.
À quelle porte est-ce que vous allez taper ? Est-ce que vous allez voir vos anciens collègues de Morgan Stanley en disant «
Passez-moi
10 millions de dollars ».
Morgan Stanley n'est pas encore prêt à aller sur le continent africain. Ils y viendront peut-être, mais ils sont encore assez loin. Et je pense de manière générale qu'il y a une certaine un certain différentiel de culture et de stratégie qui n'est pas très compatible entre la rapidité de fonctionnement du secteur financier américain et la lenteur du développement des projets sur le continent africain. Il faut du capital patient et long terme pour travailler sur le continent africain.
Et à part les banques de développement, ça se trouve où du capital patient et de long terme ? Alors, c'est pas la caractéristique principale de ce monde financier aujourd'hui.
Exactement. Alors, il y a les banques de développement sur la partie financement, on l'a évoqué, et sur la partie fonds propres, les investisseurs qui, selon moi, sont les mieux à même de réussir sur le continent sont soit des investisseurs africains qui comprennent les problématiques de leur pays, et aujourd'hui, il y a une réelle émergence du capital africain. Alors pas seulement bancaire, hein, aussi de groupes privés. On travaille et parmi nos investisseurs,
Est-ce que vous pourriez donner le nom d'investisseurs africains ou qui vous ont rejoint ou qui discutent avec vous ?
Des noms spécifiques, non, parce que c'est plutôt des choses confidentielles, mais je peux vous donner des noms de grands investisseurs comme vous les connaissez, les milliardaires africains qui ont réussi, comme Aliko Dangote, comme Patrick Motsepe. Vous avez quelques grands noms de la finance africaine qui aujourd'hui investissent dans leur pays.
Et en Afrique francophone aussi ?
Et en Afrique francophone aussi. Il y a quelques grandes familles qui ont réussi à construire des groupes diversifiés dans différents pays et qui nous font confiance et travaillent avec nous pour le développement de projets dans leur pays ou dans la sous-région. Alors, il y a aussi des investisseurs institutionnels, et je saluerai en particulier la Caisse des dépôts du Sénégal, qui nous a fait confiance dès le démarrage de Greenwich et qui aujourd'hui est très content des investissements qu'elle a pu réaliser avec nous, qui sont à la fois des bons investissements financiers, mais aussi des investissements structurants dans leur mission de financement des infrastructures du pays.
Pourquoi est-ce qu'il faut, excusez-moi Julien, pourquoi est-ce qu'il faut une entreprise française pour faire ce boulot ? Pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas le faire ?
Alors, il ne faut pas particulièrement une entreprise française. Il faut des compétences qui ont été développées dans des marchés où ce secteur a été développé avant l'Afrique. Et aujourd'hui, alors je vais vous donner un exemple très intéressant. Pour nos projets au Nigeria, je voulais renforcer l'équipe locale avec des Nigérians. Pour autant, comme il n'y a pas d'énergie solaire encore sur le Nigeria, il y a très peu de Nigérians qui ont la compétence du développement de ces projets. Et on a réussi à trouver à Dubaï un Nigérian qui est revenu au pays et qui était ravi, qui avait justement développé des projets d'énergie renouvelable dans d'autres pays. Donc, il y a un enjeu important qui est le transfert des compétences et la formation des équipes locales. De plus en plus, aujourd'hui, dans nos équipes, les équipes sont de plus en plus constituées d'Africains, mais qui souvent sont issus de la diaspora et ont fait leur classe sur la structuration financière, de projets, etc., dans des pays autres que des pays africains. Mais je pense qu'il y a un grand potentiel à ce que ces projets soient de plus en plus initiés par des équipes africaines. Et en tout cas, pour nous, elle se fait en partenariat toujours avec des partenaires locaux.
Je voulais revenir sur les bailleurs qui vous soutiennent. Vous êtes soutenu, je crois, par la société d'investissement Denham Capital, qui est assez présente dans les énergies fossiles, même dans le gaz de schiste. Comment ils voient, eux, la transition énergétique ? Quel est leur point de vue ? Quel discours vous avez avec eux ? Quels sont les échanges, la teneur des échanges que vous pouvez avoir avec cette société qui n'est pas spécialement portée sur l'écologie ?
Alors, ça fait partie des acteurs qui sont spécialisés dans la production indépendante d'énergie. Ce type d'investisseur, en fait, regarde les énergies renouvelables comme une classe d'actifs comme les autres et sont impliqués dans différents types de projets d'infrastructures. Pas forcément avec la même vision et engagement sur le changement climatique, mais pour autant sont des acteurs qui ont une grande expérience de la structuration et du développement de projets et peuvent jouer un rôle dans ce type de projet. Avec une réserve qui s'applique à tous les fonds d'investissement, c'est des durées d'investissement qui sont courtes. Les maturités de ces fonds sont en général assez courtes.
C'est-à-dire ?
En l'espace de 3 à 5 ans, il est attendu d'avoir investi et désinvesti des projets. Alors que nous, Greenwich, avons une vision plus long terme, au-delà de ces changements de
d'actionnariat. Donc comment on les implique plutôt sur des projets orange ? C'est comme ça qu'on fait ?
Alors en l'occurrence, non. Avec Denham, les projets sur lesquels on a travaillé sont plutôt des projets d'IPP, de producteurs indépendants d'énergie, et pas sur le secteur off-grid. Sur le secteur off-grid, décentralisé hors réseau, on travaille plutôt avec des partenaires africains. Et tout à l'heure, je voulais évoquer aussi l'autre catégorie d'investisseurs sont les investisseurs stratégiques qui ont pour vocation de créer des portefeuilles long terme. Alors, c'est soit les sociétés d'électricité comme EDF, Engie ou d'autres des Africains, par exemple comme Eranov, qui sont des producteurs indépendants d'énergie, mais avec des horizons long terme.
Eh bien, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, Charlotte Aubin-Calédian, d'avoir accepté l'invitation de RFI et Jeune Afrique. Cette émission est maintenant disponible sur les sites internet de nos deux médias et pour ce qui concerne RFI via l'application Pure Radio. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.